Le journal de François Chagnaud. Bonjour François.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Dans trois jours, des dizaines de milliers de personnes vont quitter leur logement de gré ou de force. Bientôt la fin de la trêve hivernale et donc la reprise des expulsions locatives.
Malgré d'importants profits ces dernières années, les hôpitaux privés se disent en crise et demandent une plus forte augmentation de leurs tarifs.
Une étude de la Fondation Jean Jaurès dévoile la surprenante dynamique de la liste de gauche de Raphaël Glucksmann à deux mois des élections européennes. La famine rôde à Gaza avec aussi peu d'aide humanitaire, elle serait désormais mais inévitable, témoignage recueilli au cœur de l'enclave en deuxième partie de ce journal. Donald Trump gonfle sa fortune grâce au succès de son réseau social et puis le numéro 3 mondial du smartphone se lance sur le marché chinois des voitures électriques. Des dizaines de milliers de personnes vivent leurs derniers jours de répit sous leur toit. La trêve hivernale prend fin ce dimanche. Et comme chaque année, les expulsions locatives vont reprendre. Elles ont plus que doublé en 20 ans, selon la Fondation Abbé Pierre. Une situation insupportable pour les militants de l'association Droit au Logement. Ils manifestaient hier devant la préfecture de police de Paris, Mathieu Laurent.
Sa fille vient de mourir dans l'appartement familial à Aubervilliers. Ico veut alors changer d'adresse. Refus de son propriétaire, un bailleur social. Cette assistante de vie auprès de personnes âgées sombre dans la tristesse et perd son emploi. Elle fait appel à des experts.
L'appartement, il y a trop d'humidité, catastrophique. La douche, la cuisine, on respire tout ça. Ils ont pris les photos, les portes cassées, tout. Et après, il n'y a pas de retour. Et c'est à l'expulsion. Et à l'expulsion, on verra qu'est-ce qu'on va faire. C'est pour ça que je fais la manif avec eux.
Ico aura accumulé 4500 euros d'impayés de loyer. Expulsion juillet prochain, dernier délai. Sarah, mère d'un enfant handicapé, a fait valoir son droit au logement opposable en 2021. Depuis, rien. Aucune réponse non plus de la régie immobilière de la ville de Paris, qu'elle contacte en urgence en novembre dernier. Le cousin qui l'hébergeait, elle et sa famille, vient de décéder.
Je contactais le service pour qu'on transfère le bail et je reste à logement en attendant les propositions. Elles sont refusées. Peut-être à moins d'avril, je suis dehors avec trois enfants et en plus un enfant handicap. Et il a un coup de problème santé, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire.
Sarah est expulsable du jour au lendemain. Deux réalités et en cette fin de trêve hivernale, particulièrement ciblée, les vieux locataires, Fanny, bénévole au DAL.
Là, on a vu quand même que ça s'est accéléré et surtout sur ces profils-là. Jusqu'à présent, ils avaient quand même la décence d'attendre que la personne soit parte en EHPAD ou soit qu'elle décède ou des choses comme ça. Là, on voit du sans-pitié, quoi. Les gens vont se faire sortir et les propriétaires n'ont pas honte de leur dire qu'il faut qu'ils partent. Pourquoi ? Parce que là, pas du gain.
Le DAL appelle à de nouvelles mobilisations à Paris mardi prochain, 2 avril. La trêve expire bien le 1er, mais point d'expulsion, un jour férié.
Et dans un avis publié hier, la Commission nationale consultative des droits de l'homme alerte sur la régression de ce droit au logement. Elle rappelle que les ménages les plus pauvres sont ceux qui ont le plus de difficultés à se loger, y compris dans le logement social, et qu'un Français sur cinq vit dans un logement insalubre.
8h03 sur France Culture, la suite du journal de François Chagnaud. L'hôpital privé se dit en état d'urgence.
Mercredi, le ministre de la Santé Frédéric Valletoux annonçait brider les tarifs des actes médicaux réalisés en clinique. Ils n'augmenteront que de 0,3% en moyenne cette année, contre 4,3% pour les hôpitaux publics. Les trois principaux groupes de cliniques privées crient donc à l'injustice, Tara Schlegel.
Les cliniques rappellent qu'elles prennent en charge 9 millions de patients par an et même dans les territoires difficiles, affirme Pascal Rocher, directeur général de Ramsay Santé, un groupe leader européen présent dans 5 pays.
Dans les territoires, nous sommes avec 7 hôpitaux, le premier offreur de soins en Seine-Saint-Denis, plus de 100 000 passages aux urgences, 20% des patients à la CMU. Avec ces tarifs, je veux dire, si la décision a été confirmée, malheureusement, nous n'aurons d'autres options sur ces établissements que nous tenons à bout de bras que de restructurer l'offre.
Effectivement, 40% des cliniques en France sont déficitaires aujourd'hui. Mais il faut relativiser ce propos car globalement, ce secteur très concentré se porte bien. Un bénéfice d'environ 690 millions en 2021 montre l'adresse, une direction du ministère de la Santé, dans une note toute récente. Cela dit, les cliniques privées avancent un autre argument majeur pour demander à l'État de mieux les financer. Elles accueillent tous les profils de patients et comblent les déserts médicaux. Sébastien Proto, directeur exécutif d'Elsan, numéro 1 français avec 140 cliniques, prend la défense des praticiens qui exercent dans l'hospitalisation privée.
Dire qu'ils trient les patients, c'est les mépriser, c'est caricaturer leur action. 40% de la chirurgie du cancer aujourd'hui se fait dans les hôpitaux privés. Un tiers des chimiothérapies. La moitié de la radiothérapie en France se fait dans l'hospitalisation privée. Nous faisons des choses difficiles. Nous prenons 3 millions de passages aux urgences par an.
Un chiffre en valeur absolue très élevé, mais qu'il faut comparer aux 20 millions de passages aux urgences chaque année en France, qui sont donc très majoritairement assurés par le secteur public.
Tara Schlegel. À un peu plus de 2 mois des élections européennes, un scénario surprenant se dessine dans les sondages. La liste Place Publique Parti Socialiste portée par Raphaël Glucksmann arriverait en 3e position avec 10 à 13% des intentions de vote et serait donc en tête à gauche. Alors une étude de la Fondation Jean Jaurès Ipsos publiée hier et menée auprès de 12 000 personnes conclut que Place Publique PS draine une partie des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel Macron, Sophie Delpont.
Pour les 38% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle qui se disent prêts à voter pour la liste PS Place Publique, ce sont les sujets internationaux qui entraînent un basculement dans les intentions de vote, selon l'auteur de cette étude, Antoine Bristiel, directeur de l'Observatoire de l'opinion de la Fondation Jean Jaurès.
Des électeurs de Jean-Luc Mélenchon de 2022 qui considèrent bien que le Hamas est une organisation terroriste, qui souhaitent soutenir l'Ukraine, qui ont un attachement à l'Union européenne, bien désormais ils ont tendance à vouloir voter pour Raphaël Glucksmann.
Pour les personnes interrogées qui avaient voté Emmanuel Macron dès le premier tour de l'élection présidentielle de 2022 et qui seraient 30% à voter pour Raphaël Glucksmann le 9 juin prochain, c'est une manière de sanctionner la politique menée par le chef de l'État au niveau national, selon Antoine Bristiel.
C'est-à-dire le fait d'être opposé à la réforme des retraites, le fait d'être favorable à l'immigration et considérer également qu'on devrait en faire davantage sur les questions écologiques, ben ça va pousser une partie de l'électorat Macron à désormais voter pour Raphaël Glucksmann.
Une partie de son électorat féministe s'est aussi braquée après les propos de soutien du chef de l'État envers Gérard Depardieu, selon cette étude. Un des critères déterminants pour la bascule de son électorat est la droitisation de la politique macroniste, selon les personnes interrogées, qui se situent au centre-gauche de l'échiquier politique et qui croyaient à la promesse de dépassement des clivages. Des résultats à relativiser cependant à ce moment de la campagne où seulement un électeur sur deux interrogé dans le cadre de cette étude déclare être certain de son choix pour le 9 juin prochain.
Alors, la liste portée par Raphaël Glucksmann n'avait obtenu qu'un peu plus de 6% des voix aux dernières élections européennes de 2019. Si rien ne change, à Gaza, la famine sera inévitable dans le nord de l'enclave, alerte l'ONU. Les camions d'aide humanitaire arrivent au compte-gouttes et d'après les Palestiniens, les efforts des grandes familles gazaouis pour organiser la distribution ont été sabotés par l'armée israélienne, Étienne Monin.
Ce que l'on comprend avec cette vidéo tournée aux portes de la ville de Gaza, c'est que le chaos et les pillages sur les routes ont empêché les camions d'atteindre les communautés du Nord. L'ONU a donc essayé de trouver une solution. Georgios Petropoulos dirige la coordination de l'ONU à Gaza.
On a réussi à faire en sorte que les communautés, les quartiers s'organisent. Ça n'a pas été facile. Le secteur est extrêmement dangereux. On ne sait pas combien de temps ça va tenir.
Les clans de Gaza ont donc commencé à sécuriser les convois. En coordination avec la police du Hamas, ils ont permis à l'aide de monter plus au nord pour être stockée. Mais d'après Abdelkader Sabah, l'armée israélienne a ciblé des responsables. Il est journaliste dans le nord de l'enclave, joint par WhatsApp.
L'armée israélienne n'a pas apprécié cette situation. Elle a donc bombardé la plupart des entrepôts qui contenaient de la nourriture. Il n'y avait plus aucun moyen sûr de distribuer l'aide, comme l'armée ne permettait à personne de la sécuriser. Parce que lorsque la sécurité tentait d'être présente au carrefour proche de l'arrivée des camions, elle était bombardée. Le mois dernier, par exemple, il y a eu des tentatives pour sécuriser l'arrivée de l'aide. Mais les gens ont été bombardés. Donc les services de sécurité ont commencé à s'éloigner des camions et les gens ont recommencé à se bousculer vers les camions et à prendre ce qu'ils pouvaient prendre.
Des coordinateurs et des responsables policiers palestiniens ont été tués par les Israéliens ces 15 derniers jours. L'armée aurait cherché à recruter sans succès des familles pour garder la main sur la sécurisation des convois privés. Elle affirme aujourd'hui qu'elle n'impose aucune limite à l'aide humanitaire.
Et on le rappelle, Gaza reste inaccessible aux journalistes internationaux, d'où ce reportage d'Étienne Monin réalisé à distance depuis Paris. La famine menace la majorité des 2 400 000 habitants de l'enclave. Selon l'ONU, la Cour de justice internationale a ordonné à Israël d'assurer une aide humanitaire de toute urgence, mais la juridiction de La Haye ne dispose d'aucun moyen de faire respecter cette décision.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de François Chagnot. Donald Trump se frotte les mains.
Et oui, il Il se voit déjà à la Maison Blanche après l'élection présidentielle de novembre et en attendant, eh bien, il remplit son compte en banque. La valeur de son propre réseau social a explosé depuis son entrée en bourse mardi. L'ancien président avait créé cette plateforme Truth Social après son éviction de Twitter. Et même si aujourd'hui elle perd plus d'argent qu'elle n'en rapporte, elle a tout de même permis aux milliardaires de revenir en deux jours dans le classement des 500 plus grandes fortunes mondiales, Loïc Loury.
À environ 62$ l'action et malgré une baisse marquée dans la journée, l'entreprise Trump Media valait hier plus de 8 milliards de dollars, dont près de la moitié dans la poche de l'ancien président. Mais attention à ne pas crier jackpot trop vite. Donald Trump d'abord pourrait ne pas être en mesure de vendre ses parts d'ici 6 mois en vertu de la législation et ses actions risquent bien de perdre de la valeur d'ici là tant le poids de Truth Social sur les marchés semble être un écran de fumée. Entre janvier et septembre 2023, le réseau n'a en effet généré que 3 400 000 dollars, il en a aussi perdu près de 50, et avec ses 5 millions d'utilisateurs, il est bien loin des 215 millions d'actifs sur Twitter. Mais Donald Trump bénéficie sans doute pour l'instant de la ferveur de ses partisans qui veulent un bout du gâteau Trump, tout comme il profite des calculs des investisseurs qui espèrent certainement voir le républicain revenir à la Maison Blanche, propulsant Truth Social beaucoup plus haut. Pour cela, il faudra toutefois attendre l'élection dans un peu plus de 7 mois et il peut se passer beaucoup de choses d'ici là.
Et la preuve, selon plusieurs sondages récents de médias américains, Trump et son rival Joe Biden sont désormais à égalité en termes d'intention de vote. Un acteur de plus dans l'immense marché chinois des véhicules électriques. Cette fois, c'est le géant de l'électronique et numéro 3 mondial du smartphone Xiaomi qui se lance et qui vient de dévoiler donc sa toute première voiture électrique. Un pari particulièrement risqué pour l'entreprise chinoise qui arrive sur un marché très concurrentiel, Sébastien Berriot.
Le géant Xiaomi fait partie du quotidien des Chinois avec ses smartphones, ses tablettes ou encore ses autocuiseurs pour le riz. L'entreprise mise sur son expérience dans l'électronique pour convaincre les Chinois avec cette nouvelle voiture électrique, la Xiaomi SU7, une berline sportive plutôt haut de gamme. Le fabricant de téléphones a de grosses ambitions en arrivant sur le premier marché mondial du véhicule électrique. Mais le pari est audacieux. Depuis le Covid, la consommation est toujours en berne. Et surtout, ce marché du véhicule électrique en Chine est pour le moins encombré, pour ne pas dire totalement saturé. Aux côtés des deux grands qui dominent les ventes, BYD et Tesla, la Chine compte des dizaines de fabricants, 116 précisément, 133 même, si on compte ceux qui produisent des véhicules hybrides. Et ce n'est pas encore terminé, le géant de l'internet Baidu, par exemple, a également des projets. Tous ses concurrents se livrent une guerre des prix féroce qui aboutit à une surproduction dangereuse et qui a contraint certains à mettre la clé sous la porte. Plus prudent, l'autre géant chinois de la téléphonie, Huawei, a préféré s'associer à des constructeurs automobiles déjà existants pour produire ses véhicules électriques.
À la correspondance à Pékin de Sébastien Berriot. Dans le grand reportage de ce soir à 17h sur France Culture, on vous emmène dans la ville de Nilüfer, dans le nord-est de la Turquie. Cette mairie, elle fait de la résistance, elle s'engage pour l'agroécologie et la préservation des semences paysannes. Ça, c'est bien sûr à rebours de la politique nationale d'agriculture intensive en Turquie. Et c'est le combat d'Ardia Atay, président de l'association Ecoder et conseiller à la mairie de Nilüfer.
Le gouvernement fait passer une loi sur les semences il y a peut-être 10 ans. Dans cette loi, il est dit que tu ne peux pas vendre de semences ou de semis sans certificat de vente. Mais en réalité, en Turquie, il n'est pas possible pour un petit agriculteur d'avoir un certificat pour la production de ses semences et semis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Que ces activités sont gérées par des entreprises. Ils s'en fichent des agriculteurs ou des petites fermes. Ce sera fait par des firmes agroalimentaires. Et il s'est passé la même chose partout dans le monde. En Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, en Asie, pareil. Parce que ceux qui contrôlent les semences contrôlent la nourriture. Et en faisant ça, ils contrôlent les pays.
agro-écologie en Turquie, entre tradition et progrès. C'est un grand reportage de Mélissandre Brie, présenté par Aurélie Kiefer et réalisé par Annie Brault, à découvrir ce soir à 17h sur France Culture. Météo France place le Rhône et la Loire en vigilance orange, vent violent avec des rafales jusqu'à 110 km/h. Temps est agité, gris et pluvieux toute la journée entre l'Aquitaine, le Berry, la Bourgogne, le Grand Est et les Cévennes. Le ciel sera plus dégagé sur le pourtour méditerranéen. Les températures sont en hausse ce matin. Il fait 10 à Paris et Strasbourg, 14 à Toulouse, 19 à Perpignan et 22 à Ajaccio.